Et bonjour, Moutassem Amour avec vous. Bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Pratiquer la méditation. Et aujourd'hui, dans cet épisode, on va découvrir l'importance de bien respirer. Respirer, c'est important pour être bien. Même Stéphane Mifsud, qui détient, je crois encore, le record mondial d'apnée statique, ne peut pas passer plus de 11 minutes 35 secondes sans respirer. Personnellement, je viens tout juste d'essayer et j'ai pu à peine tenir un peu plus d'une minute sans respirer. Donc il est évident que respirer c'est indispensable pour la santé, je ne vous apprends rien. On le fait tous, on le fait avec une moyenne de 23 000 cycles par jour, 23 000 cycles respiratoires, donc 23 000 fois inspiration, expiration chaque jour. Donc respirer, on sait le faire, mais respirer pour survivre ne veut pas forcément dire qu'on respire bien ou qu'on respire à notre meilleur potentiel. Parce qu'en Occident, on n'est pas forcément familier avec donc, l'importance d'apprendre à bien respirer, alors qu'en Orient, l'Orient, lui, est depuis longtemps sensible à ce réflexe naturel qu'est la respiration, et là-bas, ils savent qu'on peut grandement s'améliorer, qu'on peut améliorer notre respiration avec la pratique. C'est ce que Dominique Longchamp a découvert lors d'un voyage au Sri Lanka en 1978, puis d'un séjour à Pondichéry en Inde. Et dans cet entretien que vous allez découvrir, Dominique nous parle de sa décision de partir au Sri Lanka pour s'initier à la méditation, puis de sa découverte du pranayama, qui est l'art de respirer. Ensuite, Dominique, qui enseigne l'art de respirer depuis maintenant 38 ans, nous parle aussi de comment la respiration affecte notre état émotionnel. On va aussi parler d'intelligence respiratoire et de comment développer l'élasticité des muscles de la cage thoracique va nous aider à mieux respirer. Dominique, il propose des cours à travers la France. Il propose aussi un cours en ligne sur WeLearn, qui est une plateforme d'enseignement que je recommande. Je vous mettrai le lien vers tous les sujets que Dominique va mentionner dans cet entretien. Je vous mettrai aussi le lien vers son cours, que vous pouvez donc retrouver en allant sur la page de cet épisode, aller sur Pratiquer la méditation, et c'est dans la rubrique podcast. Bonne écoute. Et bonjour Moutassem, amour avec vous, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Pratiquer la méditation, et aujourd'hui on va parler de pranayama, de l'art de la respiration, et pour cela j'ai le plaisir d'accueillir Dominique Longchamp, qui enseigne le pranayama depuis 38 ans. Dominique, bonjour. Merci de participer à ce podcast. Donc, Dominique, on va voir ensemble comment notre respiration peut affecter notre état émotionnel. On va voir comment le fait de modifier notre façon de respirer, ça peut affecter comment on se sent, ça peut aider à réduire le stress, ça peut nous aider à nous sentir mieux. Donc, toi, en 1978, tu vas au Sri Lanka. Et voilà. Tu vas dans un temple bouddhiste.
Oui.
Et j'imagine que le Sri Lanka, à l'époque, ça devait être une contrée assez sauvage, parce que là, je sais que c'est touristique maintenant depuis deux ans, mais à l'époque,
Tout à fait. Mais il y avait beaucoup de surfeurs à l'époque, quand même, déjà. S'il y avait là où j'étais, dans un petit village, malheureusement, qui a été détruit par le tsunami, qui s'appelait Hikkaluwa. J'habitais avec une famille de pêcheurs, donc c'était assez fabuleux. Et j'ai été un petit peu initié à une forme de méditation, c'est-à-dire que je suis allé au temple régulièrement, mais ça s'est borné seulement qu'à une initiation, parce qu'il n'y avait personne pour me conseiller. Et je m'étais retrouvé un peu je me sentais un peu bête. J'étais assis en tailleur, un très mauvais tailleur, avec les genoux au-dessous des aisselles. Bon, donc j'étais pas souple du tout. Et le moine me disait, mais ne t'inquiète pas, ça va venir. Puis naturellement, il y avait rien qui venait. Et puis il y avait à part les touristes qui me prenaient en photo à chaque fois. Et c'était mais c'était quand même un départ de quelque chose.
Donc toi, t'as été là-bas pas pour surfer, t'as été là-bas pour aller dans un temple bouddhiste, pour aller te rapprocher d'eux.
en fin de compte, c'est une histoire, bon, je vais la faire un petit peu courte. J'avais pris contact avec un maître en yoga qui se trouvait au Sri Lanka et qui habitait près de Hikkaluwa. Et donc, à l'époque, bon, il n'y avait pas d'Internet, le téléphone, c'était... il n'y avait pas de téléphone chez eux, de toute façon, chez ce monsieur-là. Donc, c'était uniquement par courrier. Donc, on envoyait une lettre, on avait la réponse d'ici 15 jours, etc. Donc, j'ai mis du temps à correspondre avec ce monsieur qui m'a dit, pas de problème, viens me voir et je vais t'initier au yoga. À l'époque, c'était même pas pranayama, c'était yoga. Et j'ai dit, d'accord, donc le temps que j'arrive, il a fallu que je fasse des petites économies que je puisse dormir dans mes tirelires pour financer mon voyage. J'arrive. Et puis il y avait un vieux monsieur qui m'attendait sur le pas de la porte et qui, je me dis c'est bizarre parce que je ne pensais pas qu'il soit aussi âgé. Il me dit, oh ben c'est vous Dominique, vous n'avez pas de chance, mon fils entre temps il a signé un contrat, il est parti en Angleterre, il est parti pour 4 ans. Et alors moi j'avais mes valises qui n'étaient pas en carton mais qui étaient, je ne sais plus en quoi elles étaient. Et donc il a fallu que je me suis installé dans ce village. Je suis allé un petit peu à Colombo, on m'avait indiqué quelqu'un, mais c'était uniquement que des techniques pour augmenter les capacités sexuelles, etc. Enfin, c'était pas tellement ce que je recherchais. Et donc, est-ce que je me suis fourvoyé? Je sais pas. Et quelqu'un dans la rue qui m'aborde comme ça parce que je cherchais mon chemin, parce que je cherchais un institut de yoga qui n'existait plus parce que les informations étaient trop anciennes. Il me dit, ah mais il y a quelqu'un en Inde du Sud qui est très bien, vous devriez aller le voir, et c'est le docteur Swami Gitananda, etc. Alors je prends le nom, etc. Je rentre en France et un ami de mon père qui est professeur de yoga me donne la même conseille la même personne. Alors je lui dis, ça c'est pas une coïncidence, j'y vais, j'ai même pas réfléchi. Et donc j'ai passé près de 2 ans et demi à l'ashram de Pondichéry, qui s'appelle Ananda Ashram, qui était tenu donc par le docteur Swami Gitananda, et qui m'a donc, j'ai eu des grands maîtres qui se sont venus m'enseigner, dont BKS Iyengar qui est resté plusieurs mois. Il y a eu un éventail, un panel assez extraordinaire d'enseignements. Et je suis reparti avec mon diplôme, etc. Bon, j'étais content parce que comme j'étais un très mauvais élève en France, j'ai raté mon bac du premier coup avec bonheur, heureusement d'ailleurs, parce que autrement je ne serais pas là à vous parler de pranayama aujourd'hui. Et en fin de compte, c'est une fois que je suis rentré en France, j'ai commencé à enseigner, mais les gens qui sont venus me voir avaient surtout des problèmes respiratoires. Et c'est là où j'ai commencé à trouver certaines positions, certains asanas, etc., qui permettaient justement un déblocage complet de la cage thoracique. Donc c'est bien pour faire maintenant une petite correction par rapport à ce que... En fin de compte, je n'enseigne pas véritablement le pranayama, j'enseigne le pré-pranayama. En fin de compte, ce que je fais, je débloque les cages thoraciques. C'est ça le plus important.
D'accord.
Donc, ça c'est venu petit à petit. Parce qu'en fin de compte, on va vous demander d'inspirer, d'expirer lentement et profondément par le nez. Si votre cage thoracique n'est pas débloquée, eh ben, ça sera une belle inspiration, mais ça peut être mieux.
Oui, parce que on développera un peu plus ce qu'est le pranayama si tu le souhaites, mais c'est vrai que le pranayama s'inscrit dans un enseignement global. C'est souvent ce qu'on appelle l'un des membres de l'enseignement du yoga. Et ça, voilà, il y a les postures, comme tu disais, il y a certainement les postures auparavant pour préparer le corps. Et ensuite, le travail respiratoire. D'accord. Alors, par rapport à ce que tu m'as dit, en faisant un tout petit peu marche arrière, parce que c'est quand même un sacré pas que tu as fait, de décider d'aller au Sri Lanka et ensuite à Pondichéry. Qu'est-ce que tu as ressenti en toi qui t'a donné cette envie, ce courage d'aller rechercher un professeur de yoga?
Je pense que c'était un appel. C'était quelque chose de très profond. Depuis que j'étais tout petit, j'étais passionné. Enfin, passionné, c'était pas vraiment une passion, mais j'étais La vie monastique m'attirait beaucoup. Mmh. Sans parler de religion, etc. C'était, en fin de compte, c'était vivre seul quelque part pour en tirer quelque chose, pour vivre quelque chose. Et c'est quelque chose. Bon, je voulais être soit je voulais être un moine, soit je voulais être berger, parce que le berger, on était là-haut, on était dans la montagne, on était tout seul. Donc c'était aussi être berger. Aussi, c'est une forme de vie monastique. Vous passez, je sais pas combien de mois dans votre cabane là-haut, et vous redescendez à la belle saison, ou c'est le contraire, je sais même plus, j'ai oublié. Bref, et j'ai toujours été attiré par ça, voilà. Donc je pense qu'il y a eu un facteur déclencheur. Je sais pas. Je pense que quand on est tous prêts pour quelque chose, mais à partir du moment où on est suffisamment ouvert, comment, je sais pas, on a tous des techniques différentes qui sont souvent inconscientes, mais quand l'ouverture se produit, il faut prendre ce qu'il y a à prendre.
Oui. Après, ce qui est intéressant, c'est parfois lorsqu'on fait le premier pas, comme tu as fait d'aller au Sri Lanka, même si ce n'était pas forcément la destination où tu devais aller, ça met en route des choses qui t'ont ensuite fait découvrir le Pondichéry.
Voilà, comme je disais, ces techniques d'amélioration des pouvoirs sexuels, me retrouver dans le corps assis devant le Bouddha en attendant que quelque chose vienne, alors que rien ne venait pas, puisque c'était pas comme ça que ça se passait, mais c'était comme une espèce de préparation, une espèce de défrichage quelque part, qui permet de trouver véritablement ce qui nous correspond.
D'accord. Donc après Pondichéry, tu reviens en France et tu décides d'enseigner.
Voilà,
j'ai envie de partager cette expérience.
Voilà, exactement. Ça a été très, très rapide. Je suis resté quelques années à Nantes et je me suis... j'étais professeur de yoga, je donnais des cours de yoga, mais il y avait un maximum d'exercices de respiratoires qui étaient dedans, de toute façon. Et petit à petit, assez rapidement quand même, j'en suis venu à cet apprentissage à la respiration. Maintenant, je dis ce déblocage. Alors, il y avait un moment où c'était très, très technique, un reformatage des cages thoraciques. Mais en fin de compte, c'est ça.
Ça, oui, ça transforme le fonctionnement de la cage thoracique des personnes qui travaillent
sur ça. Tout à fait, oui. C'est-à-dire qu'on permet... Le travail, c'est de chaque... C'est un travail au niveau des muscles intercostaux. C'est tout. Et à partir du moment où ces muscles sont totalement... relâchés, sont capables vraiment d'une expansion assez, assez extraordinaire, qui est normale, en fin de compte, mais que pratiquement personne n'a. À partir de ce moment-là, c'est un petit peu ça qu'il est important de dire, parce qu'on pense toujours à respiration, oxygène, etc. En fin de compte, c'est un petit peu différent. Ça va. Au niveau de l'oxygène, ça va. C'est-à-dire que c'est en rapport avec le cerveau. Il faut dire que le cerveau, parmi tous les organes qui composent notre corps, est l'organe qui a le plus besoin d'oxygène. D'accord ? Donc si on a une cage thoracique qui est un peu coincée, comme à l'habitude, chez la plupart des êtres humains, le cerveau, il va commencer à être frustré, parce qu'à chaque fois on va se trouver dans des situations où il va falloir avoir des inspirations suffisamment profondes parce que le cerveau va avoir besoin d'oxygène, là il ne pourra pas. Et ça arrive très très souvent, il y a des tas de situations justement où on ne respire pas comme on devrait, et donc le cerveau s'en trouve frustré, et c'est à ce moment-là qu'il commence à créer des maladies.
D'accord, donc c'est vrai que la respiration, c'est souvent, on n'y pense pas forcément, tout le monde on a l'impression de savoir respirer, c'est pas quelque chose qu'on va chercher à travailler, si on n'en a pas conscience, qu'elle est limitée cette respiration, et après c'est vrai que je pense que peut-être en Occident plus qu'en Orient, la respiration n'est pas optimale. Et là, voilà, ne serait-ce que par rapport à la posture, on est déjà sédentaire, on a souvent une mauvaise posture parce qu'on passe beaucoup de temps assis. Oui. Et donc là, physiquement, ça doit fermer notre cage thoracique. Et après, comme tu l'expliques, c'est vrai que s'il n'y a pas d'amplitude, les poumons ne peuvent pas bien se remplir et donc automatiquement, on va avoir beaucoup moins d'oxygène de disponible.
Voilà, c'est ça. Mais c'est surtout, c'est pas tellement l'oxygénation de tout. Il ne faut pas oublier que c'est le cerveau qui commande. Donc si le cerveau n'a pas la nourriture dont il a besoin, qui est principalement l'oxygène, à ce moment-là, il va pas pouvoir distribuer et oxygéner le reste du corps. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui nous oxygénons, c'est nous qui oxygénons notre cerveau pour que notre cerveau nous oxygène.
D'accord. Et quelles sont les conséquences d'une mauvaise respiration ou d'une mauvaise oxygénation?
Il y en a plein. Bon, on va pas toutes les énumérer. Bon, il y a déjà l'apnée du sommeil. Mmh. Hein, c'est du moment où on respire mal. Alors, l'apnée du sommeil va être liée. Bon, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est la partie médicale. L'apnée du sommeil est liée avec le diabète. Si vous prenez des diabétiques, vous allez voir qu'il y en a énormément qui souffrent d'apnée du sommeil. Mmh. Donc, c'est aussi une réaction du cerveau de créer ce diabète. Donc, ça, c'est des choses qui sont... Et bon, donc, parmi les techniques que j'enseigne, l'apnée du sommeil peut être quand même bien résolue. D'accord. Quand même. Et autrement, il y a des maladies cardiovasculaires qui vont se greffer. Il y a des problèmes d'anxiété, c'est sûr. On pense toujours, oh là là, je suis anxieux parce que j'ai des problèmes. Et il peut arriver... Les problèmes arrivent, mais si on n'arrive pas à les gérer respiratoirement parlant, mmh. effectivement, ils vont perdurer ou alors ils vont s'amplifier et puis on est mal parti.
Je pense que c'est ce que j'ai pu expérimenter. C'est vrai que lorsqu'on commence à être un peu attentif à son corps, je me rends compte que si je commence à être un peu stressé ou que j'ai le cœur un peu qui bat un peu plus vite qu'à l'habituel, je sens que ma respiration elle est un peu coupée, qu'elle n'est pas pleine. Et lorsque voilà, quand j'essaie de me détendre, de mieux respirer, automatiquement je me sens plus détendu, le cœur se calme.
C'est tout. Ça paraît stupide, ça paraît trop simple, mais c'est tout. Effectivement, c'est pareil. Et le plus important, c'est de se mettre en position où la cage thoracique va être ouverte. Donc, si on est sur une chaise, il suffit qu'on se renverse légèrement en arrière et qu'on ouvre bien et on commence à respirer lentement et profondément. C'est pas la peine de se prendre la tête en disant je respire comme ça ou comme ça. Une inspiration lente et profonde, c'est suffit. Mmh. Et juste une petite parenthèse là. Bon, on va profiter pour donner des petits conseils. Mmh. Essayez je parle à tout le monde là, essayez chaque jour de faire une trentaine d'inspirations-expirations par le nez. Peu importe où vous êtes, mais l'important c'est parce que ça permet de refaire une connexion avec le cerveau. C'est tout, c'est pour lui redonner plus d'assurance en lui communiquant justement qu'il peut confier en cette cage thoracique qui commence un petit peu à avoir plus d'expansion. Une trentaine c'est bien. Alors là il y a des gens qui disent « Oh là là, mais 30 respirations c'est beaucoup ». Vous avez calculé combien de respirations on effectue chaque jour, mais on le fait consciemment. C'est pour ça que c'est moins drôle.
Oui, c'est surtout le point. C'est de faire ces 30 respirations, on les fait consciemment. On se pose et on ressent chaque respiration.
Dix plus tard. Voilà, on peut. Mais l'important, c'est juste d'ouvrir. Mmh. C'est tout.
Mmh. Oui, donc ça aussi, c'est un point important. C'est en travaillant sur le physique, on peut affecter la respiration qui va aussi affecter notre état d'être. Parce que très souvent, l'accès au stress, l'accès au mental, c'est pas évident parce qu'il est tellement actif le mental qu'on a du mal à prendre du recul. Alors que là, l'accès au corps, c'est beaucoup plus facile. C'est plus facile de se dire, tiens, je vais me redresser, que je vais essayer de me calmer. Et est-ce que tu peux élaborer un peu sur donc, cet effet entre respiration et notre état d'être?
Oui, à partir du moment où on n'est pas bien, mieux on est et moins on respire. Mais ce n'est pas de l'apnée. C'est-à-dire que mieux on est, on peut être dans une position assise, confortable, etc. Et on va s'apercevoir que la respiration, où est-ce qu'elle est? Elle est suspendue. Mmh. Mais c'est quelque chose de très agréable. Pourquoi? Parce que le cerveau se rend compte que vous êtes dans une situation agréable. Mmh. Et là, il n'y a pas besoin de vous envoyer de l'oxygène pour nourrir telle ou telle partie de votre organisme. C'est pas la peine. Donc il y a des moments ce qu'on appelle des moments de petit bonheur, ou ça peut être des grands bonheurs. Mmh. C'est-à-dire que la respiration, elle est presque suspendue. Mais là, si vous prenez conscience de la suspension de la respiration, là, on se dit, oh là là, il faut que je respire parce que je ne respire plus. Mais ce n'est pas vrai. Vous avez des lentes inspirations, des lentes expirations. Pour vous imaginer ça un petit peu, quand j'étais, il y a quelques années, il y a deux chercheurs d'Oxford qui ont fait des expériences sur ma cage thoracique. Et on s'est aperçu que pendant mon sommeil, je respirais deux fois par minute. Et c'était pas du tout c'est là où j'ai pris conscience que mes techniques elles étaient pas mal quoi. Mmh. Et c'est là où c'est-à-dire que c'était pas de l'apnée, c'était lente inspiration, suspension, expiration, suspension. Ils ont fait des...
Oui, c'est vrai que lorsque... Pardon, je laisse continuer.
Non,
lorsqu'on médite, très souvent aussi, on se rend compte que petit à petit, le mouvement respiratoire s'apaise, la fréquence respiratoire, elle diminue, et ça devient une respiration plus détendue, et on ne respire pas plus, mais peut-être qu'on respire mieux et d'une manière plus détendue.
Tout à fait. Donc, au départ de la méditation, on va avoir, on va se concentrer un petit peu sur la respiration. Bon, il faut qu'il y ait un bon flux qui se passe. En rapport avec certaines écoles, quand on va prendre la méditation zen, par exemple, on va plus se concentrer sur l'expiration. Bon, ça ne veut pas dire qu'on n'inspire pas, mais peu importe. À partir du moment où on est dans une bonne position, il ne faut plus que votre respiration, vous l'observez, mais il ne faut plus la provoquer. Donc, pour laisser place à d'autres choses. Et ça, c'est une préparation. Mais après, ça, ce sont des techniques et des expériences pour que chacun va vivre ou va
oui.
À qui va. Ça dépend des écoles, ça dépend des maîtres. Peu importe les écoles, peu importe les maîtres. L'important, c'est ce que vous êtes en train de devenir. Donc si à partir du moment où vous avez un épanouissement, c'est le plus important.
Oui, et c'est vrai, comme tu l'expliques, c'est d'apprendre à observer plutôt que d'essayer de forcer la chose. Parce que ce serait très souvent, les gens reviennent vers moi et me disent, quand j'essaie de méditer, j'arrive pas à respirer profondément. On peut avoir des crispations ou des oppressions. Alors que non, l'idée, c'est d'observer. Et lorsqu'on commence à observer et à relâcher, spontanément, la respiration va s'améliorer. Et donc justement pour contribuer à cette amélioration, il y a des exercices physiques que toi tu proposes. Donc tu parles aussi de développer une intelligence respiratoire. Donc en quoi consistent ces exercices? C'est pour vraiment transformer la cage thoracique?
Alors bon, on va pas changer de vêtements après, hein. ça. Mais effectivement, la cage thoracique change complètement. C'est-à-dire qu'on lui enseigne à devenir complètement presque indépendante. C'est-à-dire que on a trois étages, trois niveaux qui sont très importants: niveau abdominal au niveau des côtes flottantes, niveau thoracique au niveau du cœur et niveau claviculaire tout en haut. Parce que les poumons viennent jusque-là quand même. Donc ça, c'est très important. Donc on les travaille de façon indépendante. On travaille d'abord la partie abdominale. Donc il y a quatre positions pour la partie abdominale. Il y en a quatre pour la respiration thoracique, quatre pour la claviculaire et trois pour la générale. Donc on les travaille. Alors ce qu'il faut se dire, c'est que ce type de technique, on le fait, il faut un atelier de 3 heures. C'est pas la peine de faire plus. Donc normalement, ces 3 heures, pour te donner un exemple, j'ai des élèves qui sont paresseux dans le bon sens, parce que la paresse, c'est pas un défaut, ça peut être une qualité, et qui viennent me voir une fois tous les ans pour faire l'atelier.
D'accord.
Et quand ils arrivent, quand ils reviennent après un an, je constate que leur cage thoracique, elle est toujours aussi bien débloquée. C'est parfait. Donc, ce n'est pas la peine de se prendre la tête, de se dire « Oh là là, il faut que je fasse mes exercices absolument, mon Dieu, je ne les ai pas faits. » Une fois que la cage thoracique est débloquée, c'est à vie. Il y a un petit peu de maintenance à faire, mais on n'est plus du tout dépendant de... Et alors, quand ils ont fait ces expériences sur ma cage thoracique il y a quelques années, c'est là, ils m'ont dit, mais comment tu fais? T'as des techniques particulières? Je dis non, je pratique plus. Je respire avec mes élèves, c'est tout, quand j'enseigne. Et encore, c'est eux qui se tapent tout le boulot. Moi, je suis là pour observer et conseiller. Donc, ce qui veut dire, ce que j'ai appris il y a 38 ans, c'est encore valable maintenant. Donc, ça, c'est ça la beauté de la chose. Une fois que c'est débloqué.
D'accord. Donc, une fois que c'est débloqué, après, il n'y a pas un suivi, il n'y a pas un exercice où il n'y a pas une nécessité quand même de respirer en conscience.
On revient presque au règne animal. Est-ce que tu connais des animaux qui ont des problèmes respiratoires?
Je ne sais pas.
Non, mais je veux dire non. À part du moment où, sauf s'ils commencent à fréquenter un petit peu trop les hommes, et là, ils vont avoir des dépressions, ils vont avoir de l'eczéma, etc. Mais d'une façon générale, un animal n'a pas de problème respiratoire véritablement. Tout fonctionne bien. Donc, en fin de compte, quand on fait ce type de travail, on revient un petit peu à cet état naturel et normal qu'on devrait tous avoir, mais qu'on a commencé à bloquer par notre vie, par des tas de choses.
Hein. Oui, ou c'est... C'est peut-être aussi le fait que une fois que ça refonctionne normalement et que le cerveau il en prend conscience, il intègre que c'est quelque chose qui fait beaucoup de bien et du coup il continue à respirer de cette façon.
C'est exactement ça. C'est pas plus compliqué que ça. Il y a des gens qui sont un petit peu déçus parce qu'on aimerait toujours avoir des choses bien particulières, assez extraordinaires, voire acrobatiques. Et ben pas du tout, non. C'est vraiment un retour à la source, quoi. Donc c'est pas compliqué.
Oui. Et donc tu enseignes ça depuis 38 ans. Et ce qui est bien maintenant, c'est que tu proposes un cours en ligne sur la plateforme WeLearn où ils peuvent apprendre cela à travers une série de vidéos.
Tout à fait. Puis je crois qu'il y a toujours la possibilité aussi de me contacter parce que j'aime bien être en contact avec les gens. Donc si c'est pour les conseiller, c'est avec plaisir. Mais oui, rien qu'avec ça, déjà il y a déjà du travail à faire.
On peut mettre en place les fondations.
Pardon.
On peut mettre en place. Ça permet de mettre en place les fondations. Cette série d'exercices.
Il n'y a pas de limite d'âge. Bon, alors si effectivement par rapport, vous voyez là, avant-hier, bon, ma maman malheureusement est dans une maison de retraite, et puis et ben, ça fait déjà 4 ans, et c'est il y a quelques jours, je me suis dit, je vais aller voir la personne qui s'occupe des activités, je vais enseigner quelques mouvements à faire pour les gens qui sont dans les fauteuils roulants. Il y a plein de choses à faire, enfin, donc on a fait un petit... Même si on est limité physiquement, ça c'est pas une raison pour ne pas bien respirer. Il y a aussi des choses qu'on peut adapter. À partir du moment où bon, ces positions ne sont pas pour des gens qui ont trop de limites quand même, mais à partir du moment où vous avez ces limitations, on peut entrer dans des mouvements beaucoup plus simples, mais qui permettent une expansion respiratoire aussi bonne. Donc tout le monde peut le faire.
D'accord, super. Je mettrai le lien sur la page de cet épisode, donc ou même si vous allez sur pratiquerlaméditation.com/pranayama, ça ou Dominique, je vous mettrai le lien sous la vidéo, comme ça les gens pourront découvrir le cours sur WeLearn que je leur recommande. Alors, j'aimerais te poser une série de petites questions. Pour terminer notre entretien. Les questions sont courtes et toi, tu peux prendre autant de temps que tu le souhaites pour y répondre. Alors, est-ce qu'il y a... Quel est ton rituel ou quelle est ton habitude qui te fait le plus de bien et qui est simple à mettre en place et que tu fais volontairement, très régulièrement?
Alors le plus important pour démarrer une journée, mais je le fais rarement tout seul parce que je sais toujours que j'ai des élèves pour le faire avec moi. Donc c'est ce que je fais quand je suis sur la plage parce que je donne des cours en été sur la plage tous les matins. Donc l'important c'est d'exécuter en même temps qu'on va respirer lentement et profondément par le nez. Ce sont des étirements. C'est ça. Voilà. Bon, il y a des techniques aussi que j'ai mis au point avec des gens qui étaient très raide. C'était quand j'étais allé en Afrique, je m'étais retrouvé en Tanzanie, à Zanzibar, et je pensais que les Africains étaient des gens qui étaient très souples de nature. Et en fin de compte, c'était le contraire. Alors je me retrouvais avec des bandes de jeunes comme ça, je me dis, mais qu'est-ce que je vais en faire quoi? J'avais du mal à les faire entrer dans le vif du sujet, donc on a été obligé d'adapter, et c'est là où je me suis rendu compte que ces étirements étaient vraiment essentiels. Donc les étirements le matin sont il suffit d'en faire à peu près tu me diras si tu veux qu'on en démontre quelques-uns.
Oui, avec plaisir, à la fin, pour leur montrer un exercice, oui, avec grand plaisir. D'accord. Un petit exercice qu'ils peuvent faire. Oui, donc moi, je te rejoins aussi par rapport aux étirements. C'est vrai que moi aussi, j'ai un tas de petits rituels que je fais assez régulièrement, quasiment tous les jours. Et s'il y en a un que je ne passe pas, c'est bien les étirements. Je fais des salutations au soleil. Tous les matins, je fais une série de cycles. Et c'est vrai que ça fait... on sent que le corps démarre sur une bonne base et ça fait beaucoup de bien. Ensuite, une autre question, c'est est-ce que tu as un enseignant ou un auteur que tu apprécies, que tu suis en ce moment, ou qui t'a marqué à une époque? On va dire, voilà, on va regarder la question vaste, large.
Qui m'a marqué, bon, oui, il y avait Swami Gitananda, il y avait B.K.S. Iyengar aussi, que je lis régulièrement, il y a Swami Radas, mais ça c'est plus au niveau philosophique. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ben là, je vois pas.
D'accord. Donc, t'as eu l'opportunité de rencontrer Ayanga?
Oui. Oui, c'était dur. Parce que
il est très exigeant.
Ah, mais c'était, oui, on avait l'impression qu'il était de mauvaise humeur tous les jours, quoi. Alors que c'était sa nature, hein, c'était quelqu'un de profondément bon, etc. Mais le premier jour, je me dis, mais c'est pas vrai, je pars, là, c'est bon. C'était, puis en fin de compte, il y a un moment où on s'aperçoit que, tout ça commence à fluer d'une façon assez incroyable, parce que le premier jour on veut partir, le deuxième jour on fait encore un effort, puis tout d'un coup le troisième jour on s'aperçoit que ça va beaucoup mieux.
Oui, c'est vrai que j'ai eu l'opportunité de pratiquer dans un studio à Yangar avec un prof assez exceptionnel à Nice, Christian Pizzano, et c'est vrai que c'est très, très pointu par rapport à la conscience du corps. Je trouvais que c'était une approche assez fascinante.
Ça avait duré 3 mois, je me souviens. Ouais, mais
ça doit être une sacrée expérience. Alors une autre question. Quel est le conseil que tu as tendance à donner le plus souvent, ou bien quel est le conseil qui t'a le plus marqué quand t'as donné un jour?
Alors le conseil, c'est toujours d'abord de prendre son temps. Si on est pressé pour faire quelque chose, il vaut mieux pas le faire. Il y a des tas de, même des, au niveau des pratiques, que ce soit les pratiques de yoga, même respiratoires, je conseille toujours de les faire le matin. Alors si les gens commencent à me dire, oui, mais moi j'ai pas le temps parce que je travaille, mais le soir en rentrant, si on oxygène le corps, on va à l'encontre le corps, il a besoin de se reposer. Si on l'oxygène, on risque d'avoir des problèmes, on le réveille. Donc réveiller son corps pour aller se coucher après, ça va pas du tout. Et c'est assez difficile de faire entendre ça aux gens. Alors qu'il est plus simple de se réveiller, ne serait-ce que, c'est pas la peine d'en faire 3 heures, mais ne serait-ce qu'un quart d'heure par jour. Au départ, quand on fait la maintenance, ça suffit, ou quand on fait les étirements, c'est bon. Mais il vaut mieux respecter des moments qui vont avec la santé du corps.
Oui, et le rythme du corps et les demandes de la journée.
Donc je demande toujours aux gens d'en faire le moins possible.
Oui, comme tu disais, être efficace, tout simplement.
Être efficace, mais c'est pas la peine de tomber dans un espèce de fanatisme de well-being, de fitness, etc. C'est pour moi, c'est un pur business, et puis c'est tout. Mais la santé, elle s'en sort. Donc en fin de compte, je pousse presque les gens à faire le moins de sport possible, parce que l'homme n'est pas fait pour faire du sport. Alors bon, quand je dis ça, j'ai les foudres qui m'arrivent dessus, mais l'homme n'est pas fait pour faire du sport. Vous avez déjà vu un animal faire du sport? Nos amis les grands singes, nos amis ou nos cousins les grands singes, qu'est-ce qu'ils font le matin quand ils se lèvent? Ils montent dans un arbre et puis ils vont grignoter des brindilles ou des feuilles pendant toute la journée. Ils vont courir s'il y a le feu ou si on les chasse. Nos ancêtres, avant, ils ne faisaient pas du sport non plus. Ils couraient une fois par mois pour chasser la grosse bête, et puis c'était tout. Et là, on est devenu, il y a un fanatisme sportif qui est totalement qui va totalement à l'encontre de la bonne santé, quoi.
Oui.
Donc,
disons que c'est vrai que je pense que le corps, il lui faut peu pour se faire du bien. Donc ça, c'est bien. Dès qu'on commence à se faire un peu du bien, le corps, il va maximiser cela. Et après, je pense aussi que c'est peut-être une histoire de tempérament aussi. Il y a des gens peut-être qui ont certains métabolismes, une énergie entre eux, ils ont besoin de marcher. Moi, je sais que j'ai besoin de marcher le soir, une heure. J'aime bien marcher, je fais du sport, ça me fait du bien.
Marcher, c'est quelque chose de normal.
Être en mouvement. Je pense que ce soit les étirements, marcher, sentir que ton corps est sollicité, c'est important.
Donc, moi, je suis pour la bonne, ni trop, ni pas assez. Quoi.
D'accord, très bien.
Voilà.
Alors, Dominique, est-ce que tu peux nous proposer un petit exercice ou nous donner quelques petits conseils pour commencer à transformer notre cage thoracique?
Oh, ben, y en a un qui est pas mal. Bon, ce jeu, on n'en parle pas dans le We Learn, mais c'est ce que je donne sur la plage. Donc, on va essayer de le réaliser ici. En fin de compte, c'est, je ne sais pas si les. Je vais essayer d'éloigner un peu plus. Voilà. Donc, en fin de compte, il faut que les. On va commencer comme ça. Alors, inspiration. Les mouvements qui vont vers le haut, les mouvements qui vont vers le bas, on expire. Donc c'est tout simplement ça. On démarre avec les mains comme ça.
Alors je vais décrire un peu, parce que certaines personnes vont avoir seulement la version audio. Donc on est assis soit sur les genoux, soit sur une chaise.
Ou soit en tailleur, soit en genoux.
D'accord. Et, d'accord. Donc ensuite, on entrelace les mains devant, les doigts devant soi.
On inspire.
On inspire en montant les bras.
Voilà.
Au-dessus de la tête, les paumes vers le haut.
Maximum. Et on expire en continuant d'étirer les bras. Le dos est bien courbé. Et on revient. Il faut bien passer le dos. Hein.
D'accord. On roule le haut du dos. Et à nouveau, on entrelace les doigts, on monte, on ouvre la cage.
Et on expire.
Et l'expiration, elle se fait par le nez. Hein.
Par le nez.
Inspiration et expiration, d'accord.
D'accord, donc ça, il faut le faire 6 fois.
D'accord.
Ça suffit.
D'accord, donc c'est vrai que c'est quelque chose de très simple à faire, qui déjà va mettre du mouvement.
Ça, on commence toujours les exercices sur la plage avec ça. Donc ça, déjà, après, on sent vraiment, vraiment.
D'accord.
Alors bon. Là, il y a quelque chose qu'on peut faire. Là, on n'en a pas parlé tout à l'heure. Là, est-ce qu'on entend bien le son de ma voix ?
Oui, on t'entend bien.
Et si j'inspire, dis-moi si tu entends mon inspire, d'accord. Je vais inspirer.
Oui,
tu l'entends ?
J'entends bien, oui, on entend.
Donc pour vous, là on va faire le... C'est un petit show, c'est-à-dire que je vais vous demander à tous de faire une lente inspiration-expiration par le nez, et après vous allez écouter la mienne, d'accord ?
D'accord.
Et voir ce que c'est ce que j'enseigne.
D'accord.
Donc on y va tous, là vous êtes prêts, inspiration, on inspire, et on expire, d'accord,
okay.
Donc maintenant, je vais la forcer un petit peu, donc je vais faire ce qu'on appelle la respiration d'arrière-gorge, et vous allez écouter, j'y vais. Voilà, c'est ce que j'en sais.
D'accord.
Donc, lorsqu'on commence avec la première partie, la partie au niveau des exercices pour la respiration abdominale, on arrive, on fait un petit test avant, on place les mains sur la cage thoracique en respirant, puis on le fait après 4 exercices, et là on se rend compte qu'on a pu augmenter sa capacité respiratoire d'un tiers à peu près, si on avait la machine pour mesurer. Et donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est immédiat.
D'accord. Donc, ça, c'est un bienfait rapidement accessible.
Ah, oui, c'est pas dans 3 mois, vous l'avez déjà. Le déblocage se fait immédiatement. Mais les gens, après le premier atelier, ils dorment comme des bébés. C'est un des premiers, c'est une des premières. Une des premières choses à noter, c'est le sommeil juste après.
Un bon sommeil récupérateur.
Tout à fait, c'est pratiquement immédiat. Je l'avais fait, bon, bien que j'ai beaucoup d'élèves sportifs, je ne veux quand même pas leur dire à tous qu'il faut arrêter. J'avais des marathoniens, ça c'était en Suède, et puis il y avait une marathonienne qui se préparait pour un marathon à New York qui avait au mois de novembre, donc c'était il y a peut-être 2 ans, donc j'avais eu au mois de septembre. Je lui ai dit, bon, là, l'atelier était le soir, je lui ai dit, demain, tu cours un petit peu demain matin. Ah non, je cours toujours le soir. Je lui ai dit, bah, tu cours demain matin, tu fais un effort, tu te lèves. Donc elle est arrivée chez elle vers 22h, elle s'est affalée sur le sofa, elle a dormi sur le sofa, elle n'est même pas allée jusqu'à la chambre à coucher. Et puis le matin, elle s'est levée pour aller courir, elle a battu son record.
Ah.
Donc ça, c'était, ouais. Donc,
oui, surtout pour les sportifs, la respiration, c'est fondamental pour leur performance.
Pour des sportifs de haut niveau, par exemple pour les plongeurs, les apnéistes, etc. Eux, ils ont déjà des techniques très, très développées, très puissantes, mais même celle-là aide énormément, a des effets quand même tout à fait notoires. Donc ça, je le fais aussi pour eux aussi. Non, c'est vraiment quelque chose pour tous les êtres humains ont une cage thoracique, donc il n'y a pas de. Je suis sorti un petit peu du tiroir de yoga, etc., même de pranayama, etc., pour vraiment enseigner ça à l'ensemble de la population.
C'est bien. Comme je pense que ce qui en ressort, c'est que bien respirer, c'est quelque chose qu'on a en soi, que le corps, le cerveau sait. Il faut juste le redécouvrir. Et une fois qu'on l'a redécouvert, ça se met en place.
Il faut faire confiance là-haut.
Et après, les bienfaits seront continus. Exact. Dominique, merci beaucoup pour ton temps et d'avoir partagé ton expérience avec nous. Et donc, moi, je mettrai tous les liens vers ton... Est-ce que tu as un site, en plus de la formation que tu...
Il s'appelle Vivre Libre. Je le communiquerai à ce moment-là. C'est vivre-libre.fr.
D'accord. Donc je communiquerai ça aussi pour les gens qui veulent aller découvrir ton travail aussi sur le net. Et
l'autre aussi, il y a oxygenfirst.com.
Alors, je n'ai pas entendu.
Oxygen First.
Oxygène avec un E ou sans E? Sans E, hein?
Non, sans E. Oxygenfirst.com.
D'accord, je mettrai tous ces liens et surtout, j'en mettrai le lien de ta formation qui sera une bonne... un bon moyen de te découvrir s'ils sont pas... Parce que toi, tu es basé sur la Baule en ce moment?
Oui, voilà.
D'accord. Et après, tu m'as dit peut-être que tu vas aller aussi vers l'Italie. Donc ça...
Oui, vers l'Italie. Et puis, il y a pas mal de voyages de programmés aussi. Donc, d'accord. Voilà.
Très bien. Bonne continuation dans ton enseignement.
Merci beaucoup.
À bientôt. Merci.
À bientôt. Au revoir.